Barbie, présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, Anthony est de nouveau avec nous. Il a pu échanger avec deux étudiants de l'UCO Laval, Sacha Laurent et Mathieu Malherbe. Ensemble, ils nous parlent de la précarité étudiante et notamment des étudiants obligés de travailler durant leurs études. Et puis, je vous fais part de mon échange avec Manolo Mlécuze, candidat à l'élection présidentielle de 2027 en quête de parrainage. Avant tout, on écoute Hey Bulldog des Beatles.
Les étudiants sont débordés. Une étude de la DARES, service statistique du ministère du Travail, montre que 52% des étudiants exercent un emploi sans lien avec leur étude. Une étude réalisée par Claudine Niège et Benjamin Mauer. Elle a été réalisée entre 2022 et 2023 sur 1,1 million d'étudiants, soit le nombre d'étudiants à ce moment-là. Ils n'ont pris en compte que les contrats professionnels, CDD, CDI, mais pas les stagiaires, les alternants. Nous allons analyser les raisons par les statistiques de cette étude et voir ce qu'en pensent des étudiants de l'UCO Laval, Mathieu Malherbe et Sacha Laurent, qui ne sont pas surpris par ces 52%.
C'est énorme, mais en même temps, c'est un besoin, enfin, c'est essentiel. Quand tu fais surtout des études, qui sont chères. Quand on paye 6 000 euros l'année année, j'imagine même pas ceux qui payent encore plus. Si on n'a pas assez d'aide ou on n'a pas des parents pleins aux as ou qui sont prêts à payer autant, bah soit on fait des études moindres, ce qui est dommage quand on a un beau potentiel et qu'on voudrait faire plus, c'est difficile. Mais du coup, bah on est obligé de faire des jobs qui sont pas forcément dans ce qu'on veut faire, mais qu'on est obligé de faire et qui sont peut-être pas très très bien payés, mais qu'on est encore une fois obligé de faire pour payer les études et pour vivre au final. Hein.
Face à une inflation grandissante et des bourses insuffisantes, le coût de la vie étudiante, études, voitures, logements, a augmenté 4,16% d'après l'UNEF, mais ce n'est pas la seule raison, un constat que partage Aide Lavalois.
Là, c'est vraiment essentiel, c'est même pas une question qu'on se pose. C'est, encore une fois, ça va être pareil pour mon cas, peu importe là où je vais travailler, donc à Laval, je veux travailler, quoi. Et le mieux, c'est que ce serait bien payé, histoire que on puisse arrondir les fins de mois, à payer l'appart, à payer de la nourriture et à être bien encore une fois dans la vie étudiante. Le moindre jour où on peut travailler, bah on a envie de travailler pour gagner de l'argent, quoi, et pour être à l'aise financièrement et être bien dans la vie, quoi, avoir une belle vie étudiante.
Malgré une bourse, 30% des boursiers ont un travail. Bel Guette, directeur de l'Observatoire national de la vie étudiante, explique que c'est à cause d'une bourse souvent au minimum, c'est-à-dire 0 bis, 145 euros par mois, principalement pour des personnes issues de classes moyennes inférieures. Pour Sacha, c'est avant tout parce que la bourse n'est pas adaptée à la vie étudiante aujourd'hui.
Moi, je suis boursière et je trouve que je gagne pas assez avec la bourse. Mais je sais à la fois que on a plus de budget en France, donc on peut pas payer à tout le monde. Mais moi, j'ai la bourse et ça m'aide pas à vivre.
Parmi tous les étudiants travailleurs, 30% sont dans le commerce, vendeurs, caissiers, 29% sont dans le secteur non marchand, administration publique, enseignement, santé, et 26% sont dans l'hébergement, la restauration. Quant à Sacha et Mathieu, ils travaillent tous les deux dans le domaine viticole. Le travail est non seulement difficile à pratiquer, mais il est aussi dur à trouver.
Alors là, pour l'instant, du coup, c'est les vignes dans le secteur viticole. Mais puisque, à cause des conditions météorologiques, on a beaucoup moins de travail que prévu. On devait travailler un mois, on va travailler que deux semaines. On cherche dans la vente en fait tout ce qui va prendre parce que là le marché est vraiment saturé et on reçoit des messages automatiques en plus qui nous disent on va étudier votre candidature et on n'a jamais de réponse. Donc on en a un peu marre, mais on cherche la vente.
Ce qui nous désole principalement, c'est le fait qu'on est prêt à faire n'importe quel job, peu importe, même si c'est moi si c'est manuel ou n'importe quoi, je m'en fiche, que je sois derrière un bureau ou sous la pluie, je m'en fiche aussi. Sauf que le problème, c'est que moi, j'essaie de faire un bon CV et tout, mais le mieux pour moi, c'est qu'on me dise oui directement et qu'on me fasse passer une journée d'essai. Sauf qu'on fait tout directement au CV et je sais même pas s'il est bien analysé, mon CV, en fait. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de l'expérience. Sauf que moi, je veux en créer de l'expérience. J'en ai pas forcément directement. J'aimerais, par exemple, être pompier, enfin un pompier volontaire ou encore d'autres trucs. Mais c'est compliqué, en fait, parce qu'il faut, encore une fois, il faut de l'expérience et on a pas forcément toujours. Le fait aussi de trouver en ligne ou sinon, on doit aller marcher vers eux et aller leur céder notre CV. Et en fait, on doit jongler avec tout ça, avec la vie étudiante. C'est pas très facile, forcément, tous les jours, mais on va pas non plus se plaindre, quoi.
Travailler pendant les cours est un risque, ça prend de la place dans le planning d'un étudiant et réduit son temps d'études, sans compter la pression psychologique du job qui se rajoute à celle des études. Travailler pendant les cours est un problème parce qu'il crée une inégalité entre les étudiants sur leurs chances de réussite.
Et là, le problème principal, c'est qu'on compare souvent des gens qui sont obligés de travailler pour pouvoir s'en sortir, comme des gens de notre classe qui doivent travailler tous les week-ends sans voir leur famille juste pour pouvoir se payer les études, pendant que d'autres ont leurs parents qui sont extrêmement riches et qui du coup peuvent faire ce qu'ils veulent. On peut pas comparer ces gens-là.
Face à une vie étudiante de plus en plus chère et des aides insuffisantes, les étudiants ont de moins en moins le choix et doivent aller travailler, un travail difficile à trouver et qui freine les révisions. Des aides sont arrivées pour soulager les étudiants. On peut prendre l'exemple des repas à 1 euro pour tous les cités U de France, ou encore les aides financières du CROUS pour l'alimentation, 20 euros par mois pour les non-boursiers et 40 euros pour les boursiers.
Merci beaucoup Anthony. On fait une petite pause musicale, on écoute Les Matins de Paris de Tequila Tex et Lio.
We'll be right back.
Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Comme je le disais dans l'introduction, je suis aujourd'hui en compagnie de Manolo Mlécluze, candidat à la présidentielle de 2027. Manolo a donc deux particularités. Un, il a 19 ans et deux, il n'a ni programme ni parti. Bonsoir Manolo.
Bonsoir.
Depuis quand tu suis la politique en fait et pourquoi ?
Ça fait depuis que j'ai 10 ans, depuis la présidentielle de Donald Trump. Au début, c'était vraiment un divertissement. J'ai regardé les chaînes d'info comme on peut regarder des dessins animés, j'exagérais, mais en tout cas, il y avait cette idée, ça me divertissait d'avoir des histoires, des affaires. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, des clashs. Et puis ensuite, je me suis engagé de plus en plus, j'ai compris l'importance qu'a la politique dans nos vies. Et comme j'ai quelque chose, j'aime bien parler, disons, j'aime bien penser aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui me convenait plutôt bien. Et donc, j'ai pris plaisir à débattre avec des amis, avec des professeurs, et jusqu'à en faire à peu près toute ma vie, hein, maintenant, ces dernières années. Mais ça fait depuis que j'ai 10 ans que je m'intéresse à la politique.
Et du coup, pourquoi, à ton tour, t'être lancé dans ce grand bain ?
Parce qu'en fait, j'avais pas. C'est quand même très particulier, puisque la politique m'intéresse énormément, elle occupe une place très importante dans ma vie, et pourtant, sur la prochaine présidentielle, je n'avais pas. Enfin, il y avait aucun candidat qui portait mes idées. Vraiment aucun. C'est-à-dire que moi, je pense que le système politique actuel, il est pas assez sain, que la population a pas assez de place à l'intérieur de celui-ci, et que les dernières initiatives de démocratie participative ont pas du tout été assez fructueuses. Je pense aux grands débats ou aux conventions citoyennes. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de démocratiser notre système politique, et pourtant, personne ne porte assez cette conviction. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. C'est pas un choix de le faire à 19 ans, c'est uniquement la conséquence du fait qu'il y ait aucun autre candidat qui me donne envie de s'engager. Et du coup, je me suis dit, s'il y a personne qui fait ce que t'aimerais faire, autant le faire toi-même.
Ça aurait pu être maintenant ou plus tard, quoi. C'est vraiment l'urgence du moment.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais après, le fait d'être jeune aussi, ça permet plein de choses. Moi, j'ai aucune responsabilité, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. Donc je peux mettre ma vie de côté pendant 2 ans et prendre le camion et faire un tour de France. C'est pas quelque chose que tout le monde a la chance de faire, j'en suis conscient. Et c'est aussi cet âge qui me permet ça. Et puis en plus, médiatiquement, c'est utile aussi d'être jeune. Moi, il y a pas mal de médias qui s'intéressent à la candidature uniquement pour essayer de trouver le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Donc disons que mon âge étonnant peut permettre d'attirer une curiosité qui permet ensuite pour moi de parler de fond et de parler de ce que je défends. J'ai un programme d'ailleurs, si je me permets.
Ah oui, pardon, j'ai confondu alors peut-être.
Il y a aucun souci, mais moi j'ai un programme.
Oui.
Mon programme, c'est de convoquer une assemblée constituante.
Oui, c'est ça.
Donc, une assemblée qui rédigerait une nouvelle constitution et ce serait composé d'un échantillon représentatif. Et une fois qu'elle a rédigé cette nouvelle constitution, la constitution serait soumise à référendum. Mmh. Donc voilà.
Enfin, c'est ta seule idée du programme, du coup
Fait, le programme est structuré de telle sorte à ce que moi, si j'arrive au pouvoir, je suis élu président de la République, je dissous instantanément l'Assemblée nationale. Okay. Et donc, il y a des élections législatives. Et le parti qui arrive en tête des élections législatives, je nomme son président Premier ministre. Et donc, c'est à lui de mener des politiques économiques, sociales, diplomatiques.
Ce sera le programme du parti.
C'est un projet qui est uniquement institutionnel. Uniquement institutionnel.
Et tu n'as jamais été sur une liste électorale, au municipal par exemple, ou je ne sais pas, département, peu importe?
Non, jamais. J'ai milité pour des partis politiques, donc plutôt à gauche, avec le Parti Socialiste et la France Insoumise. Mais après, sinon, ça fait qu'un an que je suis majeur, donc je ne pouvais pas être sur les listes. Et puis ensuite, mon engagement, il n'a jamais été vraiment à échelle locale, parce que c'est hyper important les municipalités, mais le problème, c'est que sur les questions institutionnelles, donc sur les questions de démocratiser notre système politique, elles n'ont pas vraiment de pouvoir. Il y a toujours ce plafond de verre en haut qui sera la politique nationale. Donc c'est pour ça que je porte mon engagement directement à l'échelle de l'élection présidentielle et pas sur des petites mairies, parce que ce serait moins pertinent.
Oui.
Sur cet engagement-là.
Et tu disais donc ton objectif, c'est une assemblée constituante, donc passer à une 6e République.
Pas forcément. Bon. Okay. Ouais, mon projet, c'est de rédiger une nouvelle constitution, mais qui sera ensuite soumise à référendum.
Okay.
Donc, si jamais la nouvelle constitution, elle est refusée à référendum, on reste sur la 5e.
Okay.
Mais au moins, on a eu le choix, et c'est le plus important en démocratie, c'est d'avoir une autre alternative.
Et justement, si jamais cette constitution, elle n'était pas validée avec un référendum, qu'est-ce que tu ferais pendant les dernières années du mandat?
Bah moi, je démissionne, qu'elle soit acceptée ou non, je démissionne au bout de 2 ans.
Ok.
Et à ça, du coup, mon Premier ministre aussi démissionne ses fonctions.
Ok.
Mais oui, je ne vais pas rester au pouvoir alors même que la Constitution est refusée, ça n'a pas vraiment de sens.
Et si jamais elle était acceptée, tu démissionnerais aussi?
Je serais bien forcé, pour le coup, je le ferais de bon cœur, mais à partir du moment où on passe à un nouveau régime politique et que du coup, on change complètement les concentrations de pouvoir, je ne vais pas rester président de la République. Donc, quoi qu'il arrive, je pars que la Constitution soit acceptée ou non.
Et passer à cette 6e République, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le programme de la France Insoumise. Pourquoi pas rester chez eux si tu as déjà milité avec eux? Et pourquoi pas forcément ça?
Alors, moi, quand j'ai milité chez eux, il y a eu pas mal de mauvaises expériences sur le plan des méthodes. J'avais l'impression qu'ils devenaient ce qu'ils combattaient à la base, quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et même là encore récemment, il y a quand même pas mal de problèmes avec la France Insoumise. Et après, c'est un parti quand même que je respecte, mais sur le plan institutionnel, on n'est pas d'accord non plus en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'on veut passer une 6e République, mais après, la question importante, c'est quelle est la composition de l'Assemblée constituante qui rédige cette nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'on pourrait proposer que ce soit uniquement des parlementaires de l'Assemblée nationale. Selon moi, ce serait pas vraiment juste. Donc en fait, sur les compositions, on s'éloigne. C'est-à-dire que moi, je propose que ce soit un échantillon représentatif, donc une version miniature de la société française, 500 personnes, 10 000 personnes, qui représentent la société dans son ensemble. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est un mix entre des parlementaires et des gens qui seraient tirés au sort. Selon moi, c'est beaucoup moins pertinent. Et puis ensuite, il y a un constat sur lequel on diffère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que la constitution actuelle donne des concentrations de pouvoir beaucoup trop aberrantes à certains organes, et qu'en plus de ça, le peuple n'a pas assez de place dans le débat politique, je vais pas proposer un programme économique et social que je mettrai en place à travers une constitution que je conteste. Alors que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 600 mesures qu'ils veulent mettre en place dans la 5e République, alors même qu'ils la condamnent. Et ça, cette ambiguïté, je l'aime pas vraiment. Et c'est aussi pour ça que je m'en éloigne. Et en plus, j'ai pas envie que le sujet institutionnel soit partisan. J'ai envie que ce soit un sujet qui soit justement consensuel, qui arrive à ramener derrière lui, et qu'on se rende compte qu'on est dans une crise de régime, parce que notre régime politique aujourd'hui, il est pas en capacité de produire une force stable au pouvoir. On le voit bien, hein, les premiers ministres s'enchaînent, on doit faire appel de plus en plus au 49-3. Et du coup, j'aimerais qu'on soit tous conscients, peu importe son son appartenance politique de cette crise de régime et qu'on essaie de trouver une solution collectivement, plus que cette solution soit clivante parce qu'elle vient d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique.
Et donc, en fait, changer la Constitution, ce serait régler le problème à sa source, quoi.
Oui, complètement. Complètement. Bah, pas tous les problèmes, hein, évidemment.
Non, bien sûr.
En tout cas, le problème de démocratie qu'on a aujourd'hui, le fait que beaucoup de gens se désintéressent de la politique, beaucoup de gens en sont exclus, et que l'avis de la population n'a pas tellement d'importance dans les décisions qui sont finalement prises, ce problème-là serait réglé par un changement de constitution.
Comment convaincre les gens, enfin la population, de vouloir changer cette constitution et donc de voter pour toi?
Ça dépend des gens. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas une manière de convaincre tout le monde. Si seulement, ce serait beaucoup plus simple. Mais on parle, on discute. Hein, c'est toujours cette manière-là pour convaincre. Et alors après, j'ai un constat qui est quand même... La crise de régime, elle est difficilement contestable. Puis, le sujet sur lequel on peut débattre, c'est qui est légitime à réécrire une nouvelle constitution. Moi, je pense que c'est cet échange anti-représentatif. D'autres pensent que ce serait des professionnels de la politique qu'on a aujourd'hui, donc des gens qui seraient élus, par exemple. Et sur ça, on débat, il y a différentes positions qui se valent. Et moi, à partir du moment où, pour moi, c'est nécessaire que ce soit un échantillon représentatif pour que toute la population soit vraiment représentée, parce que dès qu'on passe à travers une élection, forcément que ce sera biaisé. Il y a des gens qui parleront mieux que d'autres, qui présenteront mieux que d'autres, qui auront plus d'argent que d'autres pour financer leur campagne. Et donc des gens seront exclus de l'élection, et puis des gens s'intéressent à la politique et d'autres non. Des gens ont le temps, des autres ne l'ont pas. Et donc à chaque fois qu'on passe par une élection, on biaise. Mais en même temps, des gens sont d'accord avec le fait que ce soit biaisé. Et là, c'est juste une question de position qui diffère. Mais en tout cas, moi, ma manière de convaincre, disons, c'est de parler au plus grand nombre. Donc, ça va être à des maires ou à des médias et puis à des amis. C'est comme ça que j'essaye de convaincre les gens un par un de se rendre compte du problème et de partager la solution que je propose.
Et donc, tu disais, cette constitution, elle serait rédigée par une assemblée constituante. Donc, un groupe d'individus qui serait un échantillon de la population. Comment sera faite cette sélection? Sur quels critères les individus seraient choisis? Est-ce que c'est une candidature? Comment ça peut marcher?
En fait, on catégorise la société.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on dit, OK, on la catégorise par sexe. Hommes ou femmes, on la catégorise par tranche d'âge, on la catégorise par niveau d'études, on la catégorise aussi par niveau de revenus, par zone géographique dans laquelle on vit, est-ce qu'on vit en zone urbaine, périurbaine, est-ce qu'on vit en zone rurale, et ensuite le département dans lequel on habite. Donc en fait, on dit, ok, d'accord, il y a 15% des gens qui habitent, je sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, bon, bah, dans cette assemblée constituante, il y aura 15% qui viennent de Seine-Saint-Denis.
D'accord.
Et donc, en fait, on constitue une sorte d'échantillon représentatif. Donc, non, il n'y a pas d'élection. C'est des gens qui seront tirés au sort, un peu comme les jurés quand on va participer à un procès d'assises. Et ouais, en fait, c'est un fonctionnement qui fera en sorte qu'à la fin, on ait 500 ou plus de personnes qui représentent réellement la société dans son ensemble parce qu'ils sont présents dans toutes les composantes de notre société.
Ok. Oui, donc ça ne posera pas problème, par exemple, qu'il y ait, je ne sais pas, quelqu'un qui est très marginal ou quoi, ne soit pas... Enfin, comment dire? Est-ce que ce serait possible qu'il y ait différentes catégories qui ne soient pas du tout représentées parce que trop marginales ou que c'est quelqu'un qui est seul dans sa catégorie? Enfin, je ne sais pas.
Ouais, ça, en fait, ça dépend du nombre de personnes qui, au final, sont choisies. C'est-à-dire que normalement, les conventions citoyennes, elles fonctionnent avec 150 personnes. Moi, j'aimerais que le minimum pour cette prochaine assemblée constituante, ce soit 500. Il faut d'abord préciser que les modalités, ce n'est pas moi qui les rédigerai, c'est une assemblée constitutionnaliste. Parce qu'en fait, il faut savoir combien de personnes c'est possible de réunir et que ce soit techniquement faisable, que chaque personne interagisse avec chaque personne. Donc ça, c'est compliqué. Si on monte à 100 000 personnes, ça va être compliqué de faire en sorte que chacun parle avec chacun. Et puis en plus, techniquement, réunir 100 000 personnes dans une salle, c'est compliqué. Donc du coup, il faut prendre le nombre maximum, mais qui permette quand même que l'assemblée se tienne. Si jamais on prend 10 000 personnes, on augmente le nombre de chances que chacun soit représenté. Si on en prend 100, là, il y a des chances que certaines catégories, elles, en effet, ne soient pas représentées. Mais si après on prend des échantillons assez larges, normalement même les populations les plus marginales sont représentées.
Est-ce que ça risque pas d'être difficile à gérer? Enfin, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui s'occuperait de superviser cette assemblée? Comment est-ce que tout le monde, enfin comment est-ce faire que tout le monde tombe d'accord? Enfin, comment, si c'est des gens par exemple qui n'ont jamais fait de droit, enfin je sais pas.
Alors après, la durée joue en ma faveur. C'est-à-dire que la Constitution prend 2 ans à être rédigée. Le droit constitutionnel, c'est pas quelque chose qui est le plus complexe.
Ouais.
Dans la Constitution, il y a 90 articles. Donc, enfin 89. Mais donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de très large, la Constitution. Mm-hmm. On est des questions très générales, beaucoup plus que la loi ordinaire. Et donc en 2 ans, chacun peut la maîtriser. Il n'y a pas de question d'expertise derrière. Okay. Maintenant, sur la supervision, alors ce sera encore une fois mis en place dans les modalités, mais toutes les conventions citoyennes à chaque fois sont supervisées. Voilà, il y a quelqu'un qui est nommé pour la superviser. Je crois que convention citoyenne pour le climat, c'était Cyril Dion, je crois. Mais même il y en avait d'autres. Mais bien sûr qu'il y aura une supervision, bien sûr qu'il y aura une expertise aussi qui sera présente, des professionnels de la Constitution, des constitutionnalistes qui donneront leur expertise et puis ensuite ce sera à l'Assemblée constituante de définir les orientations que la prochaine Constitution devra suivre. C'est pas juste des gens, on va pas mettre 500 personnes dans une pièce et leur dire ok, rédiger une Constitution. Non, ce sera quelque chose d'assez encadré.
Et tu connais des personnes qui seraient capables justement d'administrer cette Assemblée?
Malheureusement non. Malheureusement non. Je n'ai pas ce genre d'amis qui est expert en constitution. Alors après, je connais des constitutionnalistes. J'en lis pas mal. Je pense à Benjamin Morel, à Charlène Bézina. C'est des gens que j'aimerais voir dans la supervision d'une prochaine assemblée constituante. Mais non, je suis pas proche de constitutionnalistes ni même de politique. Hein. D'ailleurs, c'est pas du tout un milieu dans lequel je suis.
Oui.
Mais j'espère que cette campagne me fera rencontrer des gens de ce milieu. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais décider de la supervision. Je vais pas dire, ah bah attendez, je connais telle personne, je l'aime bien, on va la choisir. Je serai complètement indépendant de ce processus-là. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de collision, disons, entre les deux.
Justement, ça me fait penser, le fait que tu ne baignes pas forcément dans ce milieu politique, est-ce que tu trouves que ça peut être un plus ?
Ça peut être un plus, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pour les gens, oui.
Ouais.
Ce serait, si j'étais fils de politique, je pense que ça le ferait moins bien. Il y a des gens qui me diraient, mais en fait, t'es comme ces mecs-là.
Ouais.
Mais par contre, c'est sûr au niveau contact. Par contre, c'est sûr. C'est-à-dire le fait d'avoir aucun contact dans les médias, le fait d'avoir aucun contact dans les politiques, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée de faire parler sa candidature. On se débrouille comme on peut, hein, on envoie des mails, mais c'est une bonne galère. Donc ça me profite et ça me dessert, un peu des deux.
Et donc tu disais que la Constitution, elle serait rédigée pendant 2 ans, mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 ans ? Est-ce que... le pays, enfin, il y aura toujours une assemblée nationale et ça va. Comment ça va tourner ?
Il y a toujours une assemblée nationale, il y a toujours un Sénat. Les institutions de la 5e restent en place pendant ces 2 ans.
Mm-hmm.
Et c'est une sorte de période de cohabitation, disons, dans le sens où on a un premier ministre qui est élu, qui sera nommé par moi, mais qui sera élu à l'issue des élections législatives. Et qui, du coup, va diriger le pays, gouverner, comme ce qu'on a connu avec Chirac Jospin. Ou alors avec Mitterrand-Chirac ou Mitterrand-Balladur, c'est-à-dire que c'est des périodes où le président est assez en retrait, il a un rôle assez protocolaire. Mmh. On dit que c'est une cure de santé, la cohabitation pour le président de la République, et c'est au premier ministre de gouverner. Mais de toute façon, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, hein, c'est au gouvernement de diriger la nation. Et on a connu des périodes de cohabitation bien plus longues, celle de Chirac et de Jospin, qui était la plus longue, elle a duré 5 ans. Donc le pays est clairement préparé à, pendant 2 ans, avoir un Premier ministre qui est d'un bord politique et un président qui en est d'un autre. Et tout va tourner parfaitement, il n'y aura aucun souci.
Tu te définis plutôt à gauche, comme tu le disais avant. Est-ce que ce serait possible, du coup, que cette constitution, elle soit complètement en désaccord avec tes idées, que même, enfin, parce qu'en ce moment, il y a une tendance, disons... à l'extrême droite, mais est-ce que du coup, enfin comment tu le vivrais quoi ?
Sur les sujets institutionnels, j'ai pas l'impression que la tendance soit à l'extrême droite. Ça dépend comment on définit la position institutionnelle de l'extrême droite, mais disons que j'ai pas l'impression que les Français veulent une dictature militaire. Une dictature, ça leur plaît pas. Donc en fait, je crois vraiment que cette constitution sera plus démocratique que celle qu'on a aujourd'hui. Sur ça, je m'inquiète pas trop. Je peux m'inquiéter par contre sur l'issue des élections législatives. C'est-à-dire que si jamais on a le Rassemblement National, qui est le premier parti de France, et qu'il est en tête aux élections législatives et qu'il a presque une majorité, je serais contraint de nommer le président du parti, donc le fameux Jordan, Premier ministre. Et c'est vrai que ce ne sera pas agréable. Mais bon, hein, faut se faire violence. Et puis, de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est-à-dire que même si c'est Mélenchon qui est élu président de la République, si jamais le RN a une majorité à l'Assemblée, il sera forcé de nommer le président du parti du Rassemblement National à l'Assemblée. Donc,
oui, bien sûr.
Pas comme si j'avais le choix et je me ferais violence et tout ira bien. Mais je m'inquiète pas vraiment. J'ai l'impression qu'on survend un peu à quel point la population adhère au Rassemblement National. Quand on regarde des études sur qui permettent aux Français de s'exprimer avec nuance, de s'exprimer sur tout le monde, on remarque que le Rassemblement National n'est pas si aimé. Et puis même, ça se voit dans le sens où c'est quand même, ils prennent de la farine et des œufs qui font des déplacements. On ne peut pas dire qu'il y ait un total engouement de la population française dans le Rassemblement National. Moi, je le vois quand je vois des maires, c'est une inquiétude qui est présente dans beaucoup de couches de la population. Disons que je ne m'inquiète pas trop sur ce que penseront les membres de cette assemblée constituante.
Oui, donc il y a pas.
Parce qu'après, il y a quand même une question démocratique aussi avec les élections législatives.
Oui, bien sûr.
Je fais une aparté, mais parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si jamais le Rassemblement National est élu aux prochaines élections présidentielles, c'est un scandale démocratique. En fait, on a un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin uninominal à deux tours. Donc en gros, on vote pour un nom au premier tour, il y a tout le monde, et au deuxième, ça se précise, ça dépend comment. En l'occurrence, pour l'élection présidentielle, il reste que deux personnes à la fin. Et c'est un mode de scrutin qui ne permet pas aux Français de s'exprimer avec nuance et de s'exprimer sur tous les candidats. Et ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pour qui tu votes. Si jamais je récupère ton bulletin et que je vois juste un nom dessus, je ne sais rien de ce que tu penses de la politique. Je sais qu'il y a quelqu'un que tu aimes bien, et encore, je ne sais pas à quel point, et je ne sais pas ce que tu penses de tous les autres. Alors que si jamais il y avait une grille, là, je parle d'un mode de scrutin qui s'appelle le mode de scrutin à jugement majoritaire, qui a été inventé en 2014 en plus par des chercheurs français. Et en fait, tu as une grille d'appréciation avec 6 degrés d'appréciation et tu t'exprimes sur tous les candidats où tu veux t'exprimer. Et donc là, si jamais je récupère ton bulletin et que je vois ce que tu penses de tout le monde, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que tu penses. Et avec ce mode de scrutin-là, le Rassemblement National, comme il est tant détesté par une grande partie de la population, il ne gagne jamais. Et donc, le fait qu'on soit bloqué avec ce mode de scrutin-là, alors qu'en plus il est dans la loi ordinaire, ça se change avec un vote à l'Assemblée. Il n'y a aucun parti qui le propose, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'engage pas dans les partis traditionnels, c'est que je ne comprends pas ce qu'ils font sur le terrain de la démocratie. Mais en fait, si jamais on change ce mode de scrutin-là, le Rassemblement National n'est pas élu parce qu'on permet à la population de mieux s'exprimer. Et donc le fait qu'on rétrécisse la capacité d'expression de la population va nous faire avoir Marine Le Pen peut-être comme prochaine présidente, c'est absolument honteux. Et il y a vraiment une question démocratique derrière ça qui n'est jamais assez posée, je trouve.
Et est-ce que justement, en mode de scrutin comme ça, t'aimerais voir ça dans une potentielle 6e République ?
Disons qu'il y a différentes manières de désigner des élus. Moi, je suis quand même assez sceptique sur la capacité qu'a l'élection à permettre une représentativité. Je trouve que dès qu'on passe par une élection, on biaise. Et c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que dans mon assemblée constituante, enfin mon assemblée, je me prends pour qui, c'est pour ça que dans l'assemblée constituante que je propose, le mode de désignation, c'est l'échantillon représentatif. Pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir des gens qui à la fois ont le temps de s'intéresser à la question qui leur est posée, mais qui aussi représentent la population dans son ensemble. Là, on le voit bien avec, par exemple, les élections législatives, à l'Assemblée nationale, les cadres sont à peu près 70%, les ouvriers sont 2%, et alors que les deux sont entre 10 et 12% dans la population réelle. Donc il y a des vrais soucis de représentativité. On peut faire pareil avec la représentativité homme-femme, par exemple. Les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes à l'Assemblée nationale, et encore pire au Sénat, et encore pire quand on parle de la présidence de la République. Donc la capacité qu'a l'élection à permettre une représentativité, disons que je la remets en cause. Et j'aimerais bien qu'on voit d'autres manières de choisir des représentants politiques. Mais si on reste avec l'élection, oui, il faut changer le mode de scrutin, c'est certain. Il faut le changer. Je trouve ça absurde de garder un mode de scrutin qu'on sait défaillant. Le problème, c'est que les gens qui peuvent le changer, c'est les gens qui sont élus à travers ce mode de scrutin. Donc, on est mal barré. Mais c'est un changement qui est nécessaire à faire si on reste avec l'élection, ça c'est une certitude.
Je propose de parler des parrainages. T'es parti en quête de parrainage, il en faut 500 et c'est des maires qui les fournissent. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as des bons retours ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Est-ce que tu as l'impression que tu peux arriver à tes fins ? Comment tu le ressens ?
Moi j'y crois. Okay. J'y crois pour essayer d'arriver à ses fins. Je ne reprends pas mes études l'année prochaine, donc je suis parti pour 2 ans complètement. Okay. Je suis à fond dans ce truc parce que j'ai l'impression qu'il y a une chance. Maintenant, les retours ils sont différents, hein, ça dépend du maire qu'on rencontre, mais je m'approche d'une trentaine de promesses de parrainage, donc ce qui est quand même cool sur 6 mois de campagne avant les élections municipales. Et donc c'est de bon augure pour la suite. Maintenant on verra bien comment ça se passe. Mais ouais, moi j'y crois toujours. Et puis cette quête de parrainage, elle est évidemment compliquée, hein. C'est-à-dire que ça se résume à envoyer des mails à toutes les mairies de France, d'attendre des réponses, de convenir d'un rendez-vous et puis ensuite d'avoir un entretien avec le maire pendant, ou la maire d'ailleurs, pendant à peu près une heure et essayer de le convaincre de filer le parrainage à la fin. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai une bonne stat que sur les 40 maires que j'ai rencontrés pour l'instant, j'en ai convaincu une quinzaine. Donc les autres 15 maires dont je te parlais avant, c'est des gens que j'ai pas encore rencontrés.
D'accord.
Donc mais c'est des gens avec qui je suis en contact, parce que du coup à chaque fois, disons qu'il y a des amis qui me disent « Ah, mais attendez, ma grand-mère, elle connaît un maire. » Et puis ensuite, des fois, ça aboutit sur un parrainage. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais j'arrive à convaincre à peu près la moitié des maires que je rencontre. Donc si j'arrive à rencontrer les 42 000, ça me fera quand même 21 000 parrainages, ce qui est largement suffisant. Mais disons que pour avoir 500 parrainages, il faut que je convainc un maire sur 84. Et si j'arrive à médiatiser le projet assez pour que tous les maires en entendent parler, je pense que ça va le faire. Mais j'en suis certain.
Et comment ça marche un parrainage? C'est un papier signé avec écrit j'approuve. Enfin, comment ça marche? C'est une question.
Ouais, c'est un papier que les maires doivent signer. Mm-hmm. Et puis ensuite, je crois que c'est au Conseil constitutionnel. Non, c'est au Conseil d'État. Et en fait, la période de déposition des parrainages, c'est entre décembre et février 2027. Donc elle n'est pas encore ouverte. Ce qui veut dire que jusqu'à ces dates-là, je suis que sur des promesses. Donc, je tiens la main de monsieur ou de madame la maire et elle me promet ou il me promet de me donner un parrainage. Donc, ça se base pour l'instant sur la confiance, mais c'est qu'en décembre que j'aurai vraiment des parrainages.
J'ai vu aussi dans certaines interviews que tu parles de Martin Roca qui a été candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il était comme toi sans parti et lui pour le coup n'avait pas de programme. Tu t'inscris dans sa suite, c'est un peu une sorte de modèle, quelqu'un que tu as envie de suivre?
C'est quelqu'un que j'aime bien, que ouais. J'apprécie. C'est pas vraiment un modèle, parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc j'espère faire mieux. Sur le projet, on a des désaccords. On le défend pas de la même manière. Mais en gros, pour raconter la petite histoire, moi quand j'ai 16 ans, je commence à m'intéresser à ce projet. Et sur Internet, je tombe sur lui. Et du coup, je l'ai contacté. Et puis on a bu un café ensemble. Et de base, moi, je me disais, mais en fait, je vais le soutenir pour sa prochaine présidentielle. Ouais. Et en fait, il ne va pas se représenter. Et donc, du coup, je suis face à un dilemme. Est-ce que je me présente à sa place ou est-ce que je ne fais pas ça et je continue ma vie? Et j'ai choisi de me présenter. Et voilà. Donc, de base, ce n'était pas prévu que je me présente. Et finalement, ça s'est fait.
Et aussi, le nom de ton projet, enfin, parti, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler.
C'est un parti politique.
C'est ton parti. OK.
Ouais.
Ça s'appelle Trajectoire et ça vient d'un titre de Népal. Est-ce que tu peux un peu plus expliciter le choix de ce nom?
Ouais, bien sûr. Népal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur, c'est mon rappeur préféré. Il est très connu pour un projet qui s'appelle Adios Bahamas. Mm-hmm. Et dans ce projet, il y a un son qui s'appelle Trajectoire. Et Trajectoire, c'est un son où à la fin, on entend un penseur suisse qui s'appelle Nassim Haramein nous dire que pour que le monde devienne ce qu'on veut qu'il soit, disons, il faut pas se concentrer sur la négativité, il faut pas, disons, se morfondre dans les théories les plus négatives et qu'il faut être armé de joie de vivre et de positivité pour que le monde ne devienne pas ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai expliqué avec des mots un peu compliqués, mais en gros, l'idée, c'est juste de porter de l'espoir et de faire en sorte de pas répéter les erreurs du passé qui nous ont menés à la situation actuelle. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et puis même toute la figure de Népal, moi, c'est un artiste qui est très important pour moi. Et du coup, j'aimais bien le fait de mettre comme nom du parti un nom d'un de ses sons qui est en plus un de ses meilleurs. Puis en plus, j'aime bien l'idée de dire qu'on va rectifier la trajectoire. Je trouve que c'est une belle formule. Et ouais, j'aime bien ce nom. Je trouve qu'il représente bien ce que je veux faire.
Eh bien, écoute, merci Manolo d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
On te souhaite forcément bonne chance dans cette quête de parrainage qui est longue et fatigante, j'imagine.
Ouais,
on peut donc suivre ton compte Instagram et tu as aussi un site trajectoire2027.fr. Écoute, merci à toi. Je te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Déjà à la fin de cette émission, on vient d'écouter The Afternoon's Hat de Arctic Monkeys. Vous pourrez réécouter cette émission bien sûr en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Présenté par Eve Barton.